Merci Mickaël.
Jusqu'à 11h, voyez la vie en bleu sur France Bleu Nord.
Bonjour Bruno.
Bonjour Agnès, comment ça va?
Ça va et vous?
En pleine forme.
Alors pleine Bruno, forme. On va cuisiner pour les enfants, pour les gourmands, pour les bouches sucrées à partir de 10h.
Du pain d'épices, du pain d'épices aux pommes.
Perdu, hein, c'est un peu comme le pain perdu.
Exactement.
Mais là c'est le pain d'épices qui est perdu.
Une recette special pépé, donc on va se régaler évidemment. Et puis on va manger de la glace, ce sera son coup de cœur. Nous irons du côté de Richebourg pour faire la connaissance d'un glacier exceptionnel.
Il y a bien sûr Emmanuel Dubois qui est toujours en balade.
Oui.
On s'appelle, on se dit quoi, c'est son rendez-vous qui nous emmène un peu partout dans la région. On est dans l'Amandinois toute cette semaine et on parlera à 9h45 des paniers du coin. On saura un peu plus ce qu'il y a dans ces paniers. Et puis on parlera crédit d'impôt sur toutes les économies d'énergie avec Ludovic Dubo qui sera notre expert express à 9h40.
9h-11h, la vie en bleu sur France Bleu Nord. Agnès Delbar, Bruno Béard.
Quand vous étiez petit, vous aviez du mal à rester en place à l'école. On disait de vous, vous n'étiez pas très sage. Et vous retrouvez un peu ce phénomène chez vos enfants. Ils ont la bougeotte, ils ont un peu de mal à fixer leur attention. Et vous vous demandez si c'est normal ou peut-être si ils ont besoin d'un petit coup de main. Bah justement, on va en parler avec vos témoignages et vos commentaires au 03 20 55 89 89. Et puis avec notre experte Virginie Bossu.
Bonjour Virginie.
Bonjour Virginie.
Ça va bien?
Très bien.
Vous êtes concentrée,
merci beaucoup.
Attentive.
À fond dedans. Tout va bien.
Vous êtes psychologue clinicienne, vous avez créé la clinique de l'écolier qui est en métropole lilloise. Et justement, là, on peut trouver de l'aide hein, quand on est un écolier un peu en difficulté. Un enfant qui a peut-être du mal à se concentrer sur ses devoirs, sur les leçons, qui a un peu tendance à toucher toujours sa trousse ou son petit camarade d'à côté, histoire d'avoir un peu d'animation dans sa vie scolaire. Vous connaissez ça, Bruno hein?
Oui, ou passer sa petite voisine.
Voilà. Alors, il y a des comportements, on va dire, tout à fait normaux d'enfants qui s'ennuient un peu ou voilà, sont pas tout à fait prêts à rester en place sur une chaise pendant quelques heures. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le trouble déficitaire de l'attention. Qu'est-ce que c'est que ce trouble?
Eh oui, le trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité, est un trouble neurodéveloppemental. Il touche à peu près entre 3,5% des enfants et 5,6% des enfants, ce qui est énorme, et va pouvoir prendre plusieurs formes. Alors, on va avoir différents symptômes possibles. Hein. On va avoir effectivement un enfant qui va avoir du mal à rester assis, qui va beaucoup remuer, qui a du mal à attendre son tour, qui a du mal à suivre les consignes, qui va être distrait, qui va perdre ses affaires, qui va faire pas mal de petits oublis, dont les résultats scolaires vont être un peu en dents de scie, va avoir du mal à initier un effort et encore plus à le tenir cet effort dans la durée. On va avoir des enfants qui ont du mal à s'organiser. À la maison, ils vont un petit peu avoir du mal à s'occuper seuls. Et puis, très souvent, ces enfants-là ont un peu de mal à réguler leurs émotions, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être réagir de manière
excessive parfois.
Excessive à la frustration. Voilà. La frustration est quelque chose d'insupportable, même pire que pleurer, de grosses colères parfois.
Mmh. Ah oui, c'est l'enfant qui crie dans un rayon du supermarché et on ne sait pas quoi faire pour l'arrêter.
Voilà. Vers 3-4 ans, tout ça est très normal. Le problème, c'est quand ça se poursuit, effectivement,
oui,
là, ça devient suspect.
Vers 22-23 ans, comme pour Bruno, là, il y a un vrai souci.
Voilà. Est-ce que ça s'arrange rose à l'entour de 25?
N'hésitez pas à venir nous voir, Bruno.
Quelques petites années à attendre. Est-ce qu'on peut, je dirais, promener cette difficulté à être attentif durant toute sa vie?
Et oui, puisque nous sommes dans un trouble, ce n'est pas quelque chose qui va s'amender. Voilà, tout à fait. Alors, ça change avec l'âge, mais comme il s'agit d'un trouble, c'est quelque chose qui va nous poursuivre un petit peu toute notre vie.
D'accord.
Donc, c'est vrai que plus on est petit, plus on va avoir tendance à être hyperactif, à être impulsif, avec des difficultés d'attention associées. Plus on va grandir, plus cette instabilité va diminuer. L'impulsivité peut diminuer aussi dans une certaine mesure, mais les difficultés d'attention et de mémoire, de travail, d'organisation, etc., ce qu'on appelle les fonctions exécutives, vont rester quand même très perturbantes au niveau du quotidien.
Donc on imagine qu'il faut, si on dépiste tôt, ce trouble, c'est une manière de mettre en place un accompagnement, des aides, et certainement permettre aussi à l'enfant de se sentir moins différent, moins stigmatisé par son comportement. Tout à coup, ça ne sera pas un problème de sagesse ou un problème d'être un gentil garçon, une gentille fille ou un vilain garçon. Enfin, c'est plus des expressions qu'on utilise, mais en tout cas, on a cette idée-là.
Un peu en marge.
On revient justement sur la manière de détecter ce trouble déficitaire de l'attention, ce qu'on peut mettre en place pour l'accompagner. Avec vous, Virginie, puis avec vos témoignages, peut-être que vous reconnaissez dans ce profil votre enfant, peut-être que vous êtes déjà posé beaucoup de questions, peut-être que
vous avez besoin de conseils,
vous en tant que parent, et puis peut-être pour en parler aussi à l'enseignant. 03 20 55 89 89 jusqu'à 9h30.
Dans le Nord et le Pas-de-Calais, Der-sur-la-Lys à Caudry, du Portel à Bailleul, France Bleu Nord, on est bien ensemble.
Oh bon, on va essayer d'aller jusqu'au bout de nos rêves, Agnès.
C'est bien ça comme proposition.
C'est bien, on va déjà aller jusqu'à 11h. Un petit challenge déjà.
Je vais vous jusqu'à midi, je vous le rappelle.
Exactement.
Jean-Jacques Goldman.
Jean-Jacques Goldman à l'instant, au bout de mes rêves, 9h16. Instantané trafic, comme l'on dit, avec Florian qui est sur l'A25, je crois. Bonjour Florian.
Oui, bonjour tout le monde.
Bonjour Florian.
Alors, il y a un accident, trois véhicules en cause, dans la courbe du Between Village, dans le sens Dunkerque vers Lille. Il y avait déjà pas mal de bouchons, donc voilà.
Sur la voie de droite, hein, trois véhicules
tout
légers.
Tout à fait, c'est d'accord. Ça.
Donc vous êtes à l'arrêt déjà ? Comment ? Quelle est la situation ?
Non, ben moi je viens de passer, et les gens étaient en train d'enfiler leur gilet jaune, donc...
D'accord.
Voilà, ça venait vraiment de se produire.
Oui, ça venait de se produire, donc ouais. Ça veut dire que le secteur ne va pas désemplir pendant un petit moment, là. Hein.
C'est ça, tout à fait. Voilà.
Donc la 25 dans le sens Dunkerque vers Lille, donc dans la courbe de Between Village. Hein. Trois véhicules légers sur la voie de droite, donc prudence évidemment si vous arrivez sur le secteur. Et si vous pouvez l'éviter, faites-le, parce que je pense, comme l'a dit Agnès, que ce sera un petit peu compliqué dans quelques temps. Merci Florian.
Merci Florian.
Merci, bonne journée tout le monde.
Merci.
Bonne route.
Et on rappelle que l'info trafic mobilité, comme vient de le faire Florian, c'est au 03 20 55 89 89. Il nous a approuvé une grande attention dont on va parler avec justement le trouble déficitaire de l'attention jusqu'à 9h30 avec notre experte et vos témoignages. France Bleu.
Politiques, entrepreneurs, scientifiques, personnalités, présidents d'associations, tous ceux qui font l'actualité sont tous les matins en direct sur France Bleu Nord.
On s'aperçoit que ça n'avance pas.
S'assurer que c'est fait aujourd'hui.
Alors vous mettez le doigt vraiment sur la question, effectivement.
Ce qu'il dit est faux.
L'interview de France Bleu Matin, rendez-vous du lundi au vendredi à 8h moins le quart sur France Bleu Nord.
Tiens Michel, tu sais que ce vendredi 29 novembre, la CARSATO de France organise une journée d'information sur leur financement pour la prévention des risques professionnels ?
Pour les petites et moyennes boîtes ?
Oui, avec un numéro unique dédié à cette journée, le 03 59 31 52 52. C'est comme ça que j'ai investi l'an dernier pour un nouvel équipement. Faut pas rater ça. Hein.
Alors vendredi 29 novembre, 03 59 31 52 52, c'est noté.
Plus d'informations sur carsat-hdf.fr.
C'est parti pour le script Direct Assurance. Alors, la publicité Direct Assurance montre un conseiller qui prend un appel pendant qu'il se fait attaquer par un monstre. Non, il se fait emporter par une tornade. Pas terrible. Bon, eh bien, la publicité Direct Assurance ne montre rien du tout, puisque tout ce que nous avons à dire, c'est que nos conseillers font toujours tout leur possible pour vous aider, et c'est pour ça que Direct Assurance est élu service client de l'année 2020. Rendez-vous sur directassurance.fr, le slogan « On gagne toujours à être direct » et le jingle. Ta-ta-ta-da-da. Catégorie assurance de biens, études BVA Group, visio OCI, mai à juillet 2019. Plus d'infos sur escda.fr.
Des conseils gratuits. Une écoute, c'est la vie en bleu sur France Bleu Nord.
On parle du trouble déficitaire de l'attention avec Virginie Bossu, qui est psychologue clinicienne. Et puis avec vous aussi, si vous constatez, vous vous posez des questions sur les capacités d'attention de vos enfants et que vous voulez en savoir plus, 03 20 55 89 89. Virginie, on en était à la manière dont on pouvait détecter, est-ce qu'il y a un médecin à aller voir dans le cas où on commence à se dire il n'arrive pas à rester très longtemps sur sa chaise, il a du mal à fixer son attention, faire ses devoirs c'est compliqué, écouter les consignes il faut lui répéter plusieurs fois.
Bon, il est turbulent.
Si vous avez le moindre doute au sujet d'un éventuel trouble déficitaire de l'attention, il est essentiel de consulter. L'impact et les répercussions sociales sont tellement importantes, à la fois dans la famille, à la fois sur les copains, à la fois à l'école, qu'on a quand même un risque important de perte de confiance en soi de l'enfant, de découragement et même de dépression chez l'enfant. Et on n'a pas qu'un enfant en souffrance, on a aussi une famille qui est en souffrance, avec des enfants qui posent quand même des comportements qui sont extrêmement difficiles à gérer au quotidien et qui peuvent même être source de maltraitance. Donc, ce diagnostic, il est absolument essentiel. Alors, on peut commencer par juste aller voir un pédiatre, même en parler à son médecin généraliste, rencontrer un psychologue. Voilà. Au cours de ce premier entretien, on va essayer de cerner un petit peu le développement de l'enfant. On va cerner son milieu de vie, le contexte familial. Est-ce qu'il y a une sérénité dans la famille ? Est-ce que la famille est en difficulté sociale, comment est-ce que cet enfant fonctionne à l'école, comment il fonctionne à la maison, est-ce qu'il y a des règles à la maison, comment l'enfant les respecte. Donc on va vraiment faire tout ce qu'on appelle un entretien anamnestique, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire la cartographie de cet enfant dans son développement et dans son environnement. Ensuite, on va recevoir l'enfant pour évaluer auprès de lui l'impact que tout cela a sur voilà, est-ce que lui se perçoit en difficulté, dans quel domaine, de quelle manière, et on va de manière pluridisciplinaire effectuer un certain nombre d'évaluations. Donc voilà, ça peut être des évaluations psychométriques, hein, puisque je parle de mon domaine en particulier. Donc c'est un test de QI qui va nous permettre de voir un petit peu comment se répartit l'intelligence de l'enfant. Est-ce qu'il y a des points forts, des points faibles. On va pouvoir compléter par des évaluations plus poussées dans le domaine de l'attention, par exemple, et des fonctions exécutives, c'est-à-dire organisation, mémoire de travail, planification, impulsivité, etc. Mais aussi, d'autres professionnels vont pouvoir cerner également la problématique de cet enfant par un bilan orthophonique, par exemple, ou un bilan psychomoteur, voilà, ou même un bilan d'ergothérapie, histoire de vraiment faire une cartographie du fonctionnement de cet enfant.
Et à partir du moment où on sait que c'est le trouble déficitaire de l'attention qui est retenu, enfin que c'est vraiment de ça dont il souffre, qu'est-ce qui peut être mis en place ?
Alors là, on va avoir une prise en charge dans, qui va toucher plusieurs axes, en fait. Et cette prise en charge est essentielle parce que sa réussite ou au contraire sa limitation va peut-être engendrer un traitement médicamenteux, puisque c'est un des rares troubles développementaux qui peut bénéficier d'un traitement. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en place ? D'abord, on va accompagner les familles, parce que effectivement, il y a une souffrance importante générée par ce problème de comportement. Donc, on va aider les familles à fournir un environnement le plus structuré possible. Ces enfants ont besoin de repères immuables. Donc, on va aider les familles à mettre en place des routines qui vont être
faites. Une organisation de vie.
Oui, c'est ça. Des routines qui vont être facilitantes. Un programme de matinée, un programme de soirée. Plus les choses sont définies.
Plus les choses sont carrées, en fait.
Voilà, moins il y a de risque de déviance, en fait. Voilà, et puis l'enfant, finalement, intègre les règles, les unes après les autres, et finit par apprendre à s'organiser de cette manière-là. On va pouvoir aussi, parmi les petites routines possibles, hein, chez des enfants qui oublient plein de choses, on va, par exemple, pouvoir coller sur la porte un petit...
Un petit post-it,
un grand papier, parce que le post-it, il va passer à la trappe. Et donc, on va pouvoir faire une petite checklist le matin. Est-ce que tu as bien pris ta carte de bus, tes clés, tes cahiers,
ta tête,
ton sac de sport, voilà. Et puis, on va aussi aider les familles à modeler le comportement en permettant de donner des récompenses positives ou au contraire des sanctions face à certains types de comportements qui vont permettre de modeler le comportement.
Mais ça c'est l'approche assez compliqué quand même pour l'enfant d'un seul coup de changer en quelque sorte de rythme de fonctionnement, parce que là on passe de quelque chose d'un peu brouillon à quelque chose de très organisé.
Oui.
Est-ce que ça n'installe pas un conflit entre les parents et les enfants ?
Au contraire. Déjà, on y va progressivement, hein, ouais. On ne balance pas tout d'un coup.
On fait ça par étapes.
C'est ça. Petit à petit, on commence par des comportements qui, effectivement, lorsqu'on les cible, vont considérablement améliorer la situation. Et finalement, on s'aperçoit que tout le monde est rassuré et on retrouve de la sérénité familiale.
On va justement prendre le témoignage d'Evelyne. Bonjour Evelyne.
Oui, bonjour.
Bonjour Evelyne.
Vous nous appelez d'Allemagne, Evelyne.
Oui, je vous ai déjà appelé une ou deux fois et je vous ai dit que vous étiez mon cordon ombilical.
Oui, je me souviens, mais c'était la cuisine. Là, on était plutôt dans l'assiette. Hein, oui, je me souviens.
Et vous êtes où en Allemagne, Evelyne ?
Moi, je suis à côté de Munich. Ça s'appelle Rosenheim, c'est-à-dire la ville des roses. Voilà.
Oh.
Mais ça fait très, 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 très longtemps que je suis là. Maintenant, je suis à la retraite, donc je peux vous écouter tous les jours. Et voilà. Moi, je voudrais intervenir. Malheureusement, ce matin, j'ai pas une bonne réception, donc j'ai peut-être raté des trucs. Je vais intervenir et vous avez peut-être déjà dit ce que je vais dire.
Allez-y, Evelyne, on vous écoute.
Donc, moi, j'ai une petite fille de formation. J'ai enseigné en France pour les déficients mentaux, donc le cerveau, ça m'a toujours beaucoup intéressée. Je m'y intéresse encore. Et j'ai donc recherché pourquoi ma petite fille avait ces troubles. Mais elle n'est pas hyperactive, elle est hypoactive. C'est-à-dire qu'au lieu de bouger, elle rêve. Et donc, je voudrais décaler.
Et c'est un trouble de rêver. Ça peut être un trouble.
Oui, alors, justement.
C'est la partie distraction, en fait. Hein, ah. C'est la forme inattentive du TDAH.
Trop, quoi, oui,
voilà.
On a des troubles de l'attention, on a des hyperactifs et des hypoactifs qui, justement, passent en général inaperçus. On s'en aperçoit très tard qu'ils ont ces troubles. Mais ce qui conduit aux mêmes choses, aux mêmes troubles scolaires, quoi, que pour les hyperactifs, pratiquement. Mais moi, je voudrais déculpabiliser quand même les parents, puisque c'est vrai qu'il faut chercher dans l'angle. Il faut chercher ce qu'on fait, si, si, tata. Mais en fait, c'est un trouble physique, hein, puisque c'est, oui. le lobe frontal du cerveau qui ne filtre pas toutes ces informations et qui ne consomme pas de glucose autant que quand nous faisons des réflexions ou que notre cerveau travaille. Donc là, c'est vraiment physique. Et bien sûr, il faut travailler tout le reste. Mais depuis que je connais ce problème, eh bien, j'essaie de déculpabiliser aussi ma fille, hein, qui fait tout ce que vous dites aussi. Maintenant, on a ça en main. Hein, la petite avec les post-it, les machins, on lui parle.
Les tableaux d'organisation.
Le tableau d'organisation.
L'emploi du temps bien organisé.
Voilà. Et moi, j'ai eu la chance de parler à son institutrice pour lui justement lui faire savoir que dans la situation familiale, voilà, ma fille est mère célibataire, ici, ça là, que l'institutrice ne connaissait pas du tout. Donc c'est vraiment un travail entre école, parents.
Donc, votre témoignage, Evelyne, pour nous dire que bon, pas de panique, on y va doucement et puis on vit avec ça aussi. Voilà, il faut prendre les choses du bon côté, du moins essayer.
Puis, voilà. Et pas toujours non plus culpabiliser l'enfant, lui dire ah, mais fais attention, et tata. Mais il ne peut rien, il voudrait.
Oui, oui, mais il ne peut pas.
À cause de ce trouble du cerveau, en fait, et des neurones. Parce qu'il n'y a pas la communication qu'il faudrait.
Ouais, il ne faut pas se focaliser là-dessus 24 heures sur 24.
Ben, c'est-à-dire, malheureusement, il faut être là tout le temps. Hein, et moi, j'ai la chance d'être grand-mère disponible aussi.
Vous accompagnez votre fille et votre petite-fille, Evelyne.
Ben voilà. Mais ce qui est aussi, c'est que dans les écoles, les professeurs ne sont pas formés. Dans leur formation, il n'y a pas je ne crois pas, enfin en Allemagne en tout cas, il n'y a pas ce sujet.
Donc, ils ne sont pas formés, du moins pas pour évidemment soigner, mais pour détecter, vous voulez dire,
voilà,
même détecter.
Pour détecter, voilà. Pour détecter, parce qu'un enfant qui est hypoactif, qui rêve, tout ça, on dit, ah, allez, ma petite s'appelle Madeleine. Alors Madeleine, écoute, hein, concentre-toi. Et tu sais, mais alors la petite, on lui disait toujours, concentre-toi, mais elle ne pouvait pas.
Elle n'y arrivait pas,
oui. Finalement, elle se sentait coupable, hein, et les parents coupables, et alors que c'était, franchement, c'est pas une maladie. Mais
c'est un élément dont il faut tenir compte. Quand on le connaît, quand on l'a repéré, c'est un élément dont il faut tenir compte dans la vie.
C'est un beau témoignage, Virginie, important.
Merci Evelyne.
Merci Evelyne.
Merci Evelyne. Donc effectivement, Evelyne met l'accent sur un deuxième axe de la prise en charge, qui est le travail avec l'école, pour pouvoir expliquer à l'école que non, l'enfant ne le fait pas exprès, effectivement, qu'il voudrait bien, mais juste il ne peut pas, en fait. Donc effectivement, tout un axe va être d'expliquer les choses, de permettre d'aménager l'environnement et d'accompagner aussi cet enseignant au quotidien qui, lui aussi, tout comme les parents, d'une autre manière, se retrouve en difficulté face à cet enfant.
Parfois désarmé face à ça.
Tout à fait, c'est extrêmement difficile.
Il n'est pas tout seul en classe. Bah quoi,
voilà, tout à fait.
Donc l'enseignant, la famille, l'aspect médicamenteux aussi qui est possible dans certains cas.
Oui.
Qui donne ce traitement? Un psychiatre?
Alors un neuropédiatre. Mais je voudrais revenir sur un troisième axe qui est l'accompagnement de l'enfant, évidemment, puisque on va pouvoir travailler sur la rééducation de ses fonctions qui sont déficitaires. On va travailler sur le plan de la psychopédagogie. On va essayer de développer le contrôle de soi chez cet enfant, lui permettre permettre d'acquérir des habiletés sociales et de travailler sur la reconnaissance des émotions à la fois chez lui, à la fois chez les autres, pour lui permettre de mieux fonctionner. Et une fois que tout cela est mis en place, eh bien, on devrait effectivement avoir une amélioration, mais cette fois, parfois, ce n'est pas suffisant, et effectivement, parfois, il faut pouvoir envisager un traitement. Mais ça, c'est l'avis du neuropédiatre, qui est un praticien hospitalier, mais pour lesquels, effectivement, l'attente est parfois très très longue.
On voit que c'est une procédure longue, qu'il faut prendre son temps, qu'il ne faut pas hésiter à aller s'informer, à en discuter avec l'enseignant, à parler aussi avec les personnes compétentes. On vous remercie beaucoup, Virginie.
Et surtout, ne pas se culpabiliser, ne pas paniquer. Il y a des professionnels qui sont là pour nous encadrer.
Tout à fait, Siam.
Merci,
et puis il faut accueillir cette différence sans considérer cela comme un handicap. En fait, c'est une différence, c'est une spécificité.
Tout à fait.
De son enfant. De toute façon, si on veut en savoir plus, on peut se diriger vers la clinique de l'écolier. Vous avez un blog, Virginie.
Oui, hein, lacliniquedelecolier.info.
Voilà, et là vous trouvez plein d'informations, plein de tutos autour de tout ça. Merci Virginie, psychologue clinicienne. Merci Virginie.